Mais je voudrais chanter avec vous un chant qui dit ceci, un petit cœur, car cela doit être le désir de chaque enfant de Dieu, quel qu'il soit, d'où il vienne. Quand on est chrétien, le désir, c'est de ressembler Jésus. C'est là ce que je veux, ce que je désire. Voilà, on va le chanter, on va essayer. Après, on enlèvera le micro de là. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Pardonne-moi, Seigneur, semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser à Jérémie, toujours plus comme toi, te ressembler, Jésus, c'est mon... Amen, alléluia. Par ton esprit en moi, semblable à toi, les sœurs seulement te ressemblent. Alléluia. Ensemble, te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Alléluia, gloire au Seigneur. Est-ce que c'est votre désir? Ressembler au Seigneur. Je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire quelque chose, c'est que cela ne se fait pas comme ça. On peut dire de tout son cœur, en tout cas, ou de toute sa pensée, mon désir c'est de te ressembler. Mais ce n'est pas le dire, c'est de le vivre, ou de le mettre en pratique. Et ce que Dieu demande justement au travers du Seigneur Jésus, de son enseignement, de sa parole, et qui nous demande aujourd'hui les uns et les autres au travers de son Saint-Esprit, et ça sera le thème de la méditation ce matin, c'est tout simplement être des serviteurs ou des servantes fidèles. Le désir du chrétien ou de la chrétienne, de l'enfant de Dieu, de celui qui s'est engagé à vivre avec le Seigneur, doit être, je précise, je décide, doit être quelqu'un de fidèle. Ce n'est pas quelque chose d'anodin de dire ça, c'est très profond. Et on va lire des textes ce matin, on va essayer d'être court, mais d'élargir la pensée pour que nous puissions comprendre que ce que Dieu demande, c'est d'être trouvé fidèle. Parce que, au risque d'étonner, et j'espère que non, et je ne veux attrister personne ce matin, si nous ne nous sommes pas trouvés fidèles, je mesure mes mots, nous ne serons pas sauvés. Claire. Vous allez dire, monsieur Asquette, il y va fort ce matin. C'est pas grave, c'est le 14 juillet et c'est le feu d'artifice. C'est parce que le Seigneur Jésus le dit. Alors vous allez ouvrir la parole ou suivre si l'on peut. Dans Matthieu au chapitre 25, vous ne cacherez pas que ce matin nous allons certainement lire beaucoup la parole de Dieu, et plus la parole de Dieu sera dite, moins je causerai ou parlerai comme vous voulez. Dans Matthieu au chapitre 25, et nous lirons à partir du verset 14, qui est tout simplement cette parabole que vous connaissez tous, la parabole des talents. Nous l'avons lue, nous l'avons relue, peut-être même nous la connaissons bien, mais je voudrais en introduction que la parabole des talents, elle n'est pas seulement adressée aux inconvertis, elle est spécialement adressée aux chrétiens. Alors voyons ensemble. 25-14. Parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit en voyage. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'avais convié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne ou qui n'a pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, eh bien, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Alors, vous connaissez quel est donc le lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents, appelons-le comme la Bible nous le révèle, c'est l'enfer. Et je veux croire ce matin que vous et moi, nous n'avons aucune pensée d'aller terminer notre éternité ou de passer notre éternité en enfer. Mais à partir de ce moment-là, c'est bien de penser et de dire « Je ne veux pas connaître ce lieu de souffrance, Je veux connaître le lieu de félicité, mais pour connaître le lieu de félicité, il y a à être trouvé, et j'ai un petit peu insisté en lisant cette lecture, sur le fait que le maître qui était parti pendant longtemps et qui avait confié des biens, on va dire, de l'argent, si vous voulez, à ses serviteurs, à ses trois serviteurs, eh bien, quand il revint, il demanda, entre guillemets, des comptes. Les deux premiers ont fait fructifier ce que le maître leur avait donné. Le troisième, lui, il a trouvé un tas d'excuses pour ne pas faire fructifier ce que le maître lui avait donné, mais le résultat n'est pas le même. Et c'est pour cela qu'en lisant tout à l'heure la lecture, j'ai bien insisté, et vous l'avez peut-être remarqué, quand le maître a constaté que les deux avaient fait fructifier l'argent qu'il leur avait donné, va leur dire à l'un et après l'autre, « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Et il est marqué que dans la Bible, que ces talents ont été donnés à chacun par rapport aussi à ses qualités. Nous n'avons pas, frères et sœurs, tous les mêmes qualités aux yeux du Seigneur. Je veux dire qualité, capacité à servir le Seigneur. Nous avons déjà des éducations différentes. Nous avons des études différentes, nous avons tous des capacités, mais ce que Dieu veut nous dire ce matin, tes capacités, tu les as et fais-les fructifier pour moi, parce que c'est moi qui te les ai données. Oui ou non? Déjà, rappelons-nous, la vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Je vais dire même prêtée. Parce que ni vous ni moi, permettez-moi cet exemple très simple que vous connaissez, si jamais vous l'avez entendu, c'est que si vous arrêtez de respirer, vous mourrez. Vous le saviez, ça? Mais je vais vous dire une vérité, hein, très simple. Qui vous donne le pouvoir de faire marcher votre poumon? C'est pour ça que si vous arrêtez de faire fonctionner volontairement votre poumon, vous mourrez. Et quand j'étais jeune, et peut-être que d'autres l'ont fait comme moi, des fois avec d'autres camarades, ou même quand on va faire de l'apnée, qu'est-ce qu'on fait pour descendre sous l'eau, ou alors faire des petits concours comme ça qui sont bêtes, ne le faites pas les jeunes, si vous êtes là, les ados, s'il y en a. C'est-à-dire à celui qui va rester le plus longtemps sans respirer. Mais déjà, à 3 minutes, c'est bien. Mais à 2 minutes, vous êtes déjà tout rouge. Et vous essayez de rester. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous savez que si vous continuez, vous allez mourir. Votre corps a besoin de respirer, a besoin d'oxygène pour vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que Dieu nous a donné à tous des capacités déjà naturelles, mais nous a donné aussi des capacités spirituelles. Dites pas tous amen, hein. Je vais dire merci aux frères parce qu'ils suivent. Amen. Et ces capacités, ce n'est pas pour qu'on les garde cachées. C'est pour les mettre en évidence, mais dans l'humilité. Un service pour Dieu humble. Un service dans la fidélité pour Dieu, pour que nous croissions dans la vie spirituelle, mais que nous portions des fruits à la gloire de son nom, et ces fruits doivent être répandus autour de nous. Nous sommes des serviteurs fidèles, témoins de la vérité. Alléluia. Sommes-nous des serviteurs et des servantes fidèles? Dans Colossiens, il est dit ceci. Colossiens chapitre 1, versets 10 et 12. Je vous lis ça dans Parole vivante. Marchez d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes, et croissez dans la connaissance de Dieu. Le verset 12 dira, « Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il réserve aux chrétiens vivant dans la lumière. Alléluia. C'est un privilège que nous avons, frères et sœurs, d'être enfants de Dieu. C'est un privilège d'être des serviteurs et des servantes. Mais c'est aussi un grand privilège de comprendre que pour arriver dans l'héritage éternel que Dieu nous a promis, il faut que nous soyons, je le répète, trouvés fidèles dans toute notre conduite et dans toute l'obéissance divine. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible nous demande. Savez-vous, je pense que oui, que vous le savez. Je ne vais pas vous demander de me citer les fruits qui sont donnés par l'Esprit. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Premier, c'est l'amour. Mais si vous continuez la liste, vous allez tomber sur lequel ? La fidélité. La fidélité est un fruit de l'Esprit. Et la fidélité, on peut dire, entre parenthèses, qu'elle doit se vivre dans le couple, mais la fidélité doit se vivre avec Dieu, dans l'Église, être fidèle à Dieu. Amen. Parce que je ne sais pas si vous réalisez, je pense que oui, que c'est quand même apparemment grave de dire, si ça devait arriver, Dieu nous préserve, mais d'arriver dans la présence de Dieu et que Dieu nous dise, tu n'as pas été un serviteur et une servante fidèle, jetez-le dans les temps de feu. Ça serait grave, ça. Hein? Ça ne peut arriver qu'à ceux qui ne sont pas fidèles. Soyez fidèles à Dieu. Soyez fidèles à sa parole. La Bible nous insigne cela. Dans Romains au chapitre 8, versets 35 et 37, il est dit, je ne vous dis pas les traductions, vous me faites confiance. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénouement ou le péril ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce qui veut dire que la marche du chrétien, on va même élargir la marche de l'Église, ce n'est pas une marche facile. Nous serons confrontés à des situations difficiles. Le Nouveau Testament nous parle du combat de l'Église, nous parle de ce que les premiers chrétiens ont souffert. Mais aujourd'hui, nous rentrons dans une autre ère qui fait que dans divers lieux, des chrétiens souffrent pour le nom de Jésus. Mais pourtant, que ce soit dans le Nouveau Testament, ou aujourd'hui, au XXIe siècle, où des chrétiens sont soumis à la persécution, aux tortures, au nom de Jésus, ils restent fidèles. Fidèles. Car rien ne viendra les détacher de l'amour de Dieu. Si j'aime Dieu de tout mon cœur, alors, quelle que soit la situation par laquelle je vais passer, je lui reste fidèle. Et sa parole qu'il a mise en moi par le Saint-Esprit, je veux la faire fructifier à la gloire de son nom. Non seulement pour ma vie spirituelle, non seulement pour le bien de l'Église, mais pour le salut des âmes. Et le salut des âmes commence par ceux de notre famille. Oui ? Non ? Vous savez, permettez-moi, je fais une petite parenthèse, ce n'était pas prévu, mais je vais vous le dire quand même. Le chrétien est un témoin fidèle dans sa famille. Et quand on dit qu'on est chrétien, les premiers à ne pas nous louper, c'est les membres de la famille. Si on a quelqu'un dans la famille qui nous voit vivre non pas comme un chrétien mais comme un païen, vous êtes sûr de la de ce qui va arriver. Ce n'est pas la peine d'être chrétien pour faire ce que tu fais. Et ce n'est pas la peine de me demander d'être chrétien pour faire ce que tu fais. Vous me suivez? La première des églises, c'est notre maison. C'est là où on a des âmes à sauver, parce que tous ne sont pas sauvés. Alors il faut prier pour eux avec persévérance, parce que des fois on dit, mais je prie pour qu'ils soient sauvés. Oui, prie, c'est bien, c'est ce que Dieu te demande, mais sois un témoin fidèle au milieu des tiens. Les gens du monde te le diront peut-être pas, mais si tu te comportes comme un païen, tu ne pourras jamais témoigner de ce que Dieu est un Dieu fidèle. Nous devons prendre conscience de cela. Alors ça m'amène à poser cette petite question que vous vous posez peut-être. Qu'est-ce qu'un témoin, un chrétien fidèle, un témoin fidèle? Quelle doit être sa vie? Fidèle à quoi? J'en ai un peu dit là. Eh bien, la première des choses, c'est fidèle à Dieu, être fidèle à Dieu et à son nom, et à la personne qui nous a donné et qui nous enseigne dans les Saintes Écritures. Mais nous sommes aussi enseignés par le Saint-Esprit en lisant les textes que Dieu a donnés dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien par les prophètes et dans le Nouveau Testament par le Seigneur Jésus et ensuite par le Saint-Esprit. Ainsi n'est-il pas écrit dans le psaume 37, verset 3? Je le lis encore dans une autre traduction. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. » Vous connaissez tous ce verset. Hein? « Habite le pays et repais-toi de fidélité et fais tes délices de l'Éternel. » C'est Darby. Et ce que je note pour chacun de nous ce matin, c'est ce qu'il nous dit, c'est tellement précis. Repais-toi de fidélité. Ou encore, on pourrait dire, nourris-toi de fidélité. Et non pas une fidélité humaine, mais une fidélité divine. Que ta fidélité soit en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Fils, ton Sauveur. En l'écoute de sa parole. Repais-toi de la nourriture de ta parole, qui feront grandir en toi la fidélité et l'amour pour Dieu. Et le Saint-Esprit qui te gardera dans la marche de ta vie de chrétien, pour porter des fruits à sa gloire. Alléluia. C'est ce que nous enseigne la parole, se repaître son esprit de connaissance divine et de garder en son cœur l'enseignement divin pour se préserver de toute attaque de l'adversaire et pour pouvoir être un témoin fidèle de Jésus-Christ. Un chrétien fidèle, c'est celui qui recherche une vie intense dans l'amour de Dieu et dans le service pour Dieu. Amen. J'ai pas entendu. Ah, merci Seigneur. Et puis, je le dis, mais je vais le préciser, il s'attache fermement à la parole de Dieu. Vous savez, je ne pense pas que vous faites partie de cette catégorie de gens, du moins maintenant j'espère qu'il n'y en a plus. Mais quand ils lisent certains textes de la parole de Dieu, ils disent « Ah, ça c'est pas pour moi ». Je me souviens d'une personne qui me disait ceci un jour au cours d'une visite dans mon ministère, qui me disait « Mais vous savez, il y a des versets que je lis dans la parole de Dieu ou que j'entends, mais ils ne sont pas pour moi. Ils seront très bien pour telle sœur ». Comment? C'est-à-dire? Qu'est-ce que vous venez de dire là? J'entends pas bien. Quand vous lisez la Bible, c'est pas à la sœur qui s'adresse, hein, c'est à vous. Et alors, c'est un exemple aussi que je reprends, je lui ai dit, des fois, écoutez, les pasteurs, ils sont un peu trop directs, hein. Excusez-moi si des fois je suis direct, mais il faut dire les choses comme elles sont quand on est enfant de Dieu. Et chrétien et pasteur, normalement, pour le bien de l'Église et pour son bien propre. je disais, et je reprends des fois cette image de dire, mais vous savez, à force de dire que les textes sont pour les autres, il vous restera que la couverture de la Bible. Au moins, vous ne serez pas dérangé. Et je ne veux pas être fidèle à un carton, moi. Même s'il est en cuir, la couverture. Moi, ce que je veux être fidèle, c'est au texte qui est dedans. Alléluia. Vous savez, je ne dirai pas où ça s'est passé. Mais un jour, j'ai eu en charge une église. Je suis arrivé tout nouveau, là, dans cette église. Je pris la succession d'un frère. Et je prêchais comme je vous prêche à vous, frères et sœurs d'Annecy ou de Rumilly. Parce que je prêche ce que je ressens dans mon cœur lorsque je cherche pour l'Église le texte correspondant aux besoins des âmes. Car une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne connais pas, ni aucun pasteur ne connaît le nombre de personnes qui sera dans le lieu quand il va venir. Il ne connaît pas le nombre de personnes chrétiennes ou non chrétiennes. Mais il y a quelqu'un qui le sait déjà, c'est Dieu. Et il va préparer le pasteur à donner le texte qui va correspondre à l'auditoire. Qui sera présent. Et je parlais de la même manière que vous. Et au bout de quelques mois, il y a un frère ancien qui est venu me voir et qui me dit, frère, il faut que je vous dise quelque chose. Alors moi, je suis toujours à l'écoute. Mais j'ai été surpris, mais pas dans le bon sens, venant de la part d'un frère ancien. Qui m'a dit, frère Asquith, il faudrait peut-être que vous dépoussiériez la Bible. Ah oui, je faisais trop respecter le texte. Et ça le gênait, lui et certains membres de l'Église. Olé, olé. Si vous voulez du café au lait, allez le prendre chez vous. Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de café pour l'instant. Des fois, il y a le café quand on fait le barbecue. Mais il n'y a pas le holé. Le holé ne doit pas rentrer dans les églises. Mais je vais vous dire quelque chose. La sainteté doit rentrer dans les églises. Et doit demeurer dans les églises. Alléluia. Alors attachons-nous à la parole de Dieu. Écoutez ce que dit le psaume 119, verset 9. Ça s'adresse un peu pour la jeunesse qui est au milieu de nous. Mais j'aime cette traduction qui dit « Comment avoir dès sa jeunesse une conduite pure ?» En prenant garde à ta parole. Prions pour notre jeunesse, que Dieu les garde, mais prions pour qu'ils comprennent la parole. Et que tout comme jeune ou moins jeune, parce que la Bible s'adresse peut-être un peu particulièrement la jeunesse par ce texte, mais nous sommes tous jeunes. Des fois, quand on me demande mon âge, je réponds toujours, j'ai l'âge de mes artères. J'ai de l'âge, mais je combats l'impureté. J'essaye avec la grâce de Dieu. Car c'est par là que le diable va nous attaquer sur nos sensibilités charnelles. Mais il est bien recommandé ici qu'il ait une conduite pure, que le frère et la sœur aient une conduite pure, que l'Église ait une conduite pure, qu'elle soit un serviteur, que nous soyons des serviteurs et des servantes fidèles à Dieu. Et nous aurons la place qui nous est réservée dans le ciel. Dans le même psaume 119, qui est un psaume à la louange de la parole de Dieu, j'ai noté quelques versets. Verset 11, « Je porte tes promesses cachées au fond du cœur pour, vous le connaissez, ne pas pécher contre toi. » Si je vais au verset 97, il est dit, « Combien j'aime ta loi, je la médite tout le jour. » Je l'ai dans mon cœur tout le jour. Et parfois, cela peut arriver, si Dieu le souhaite, si nous ne dormons pas, nous nous levons et nous prenons la parole de Dieu et nous lisons un texte qui fait du bien, qui nous encourage, qui nous parle. je m'attache au Seigneur, serviteur, servante fidèle, pour être ton témoin fidèle, mais pour acquérir la place que tu me prépares dans le ciel. Alléluia. Le verset 105 dit, « Ta parole est une lumière qui éclaire mes pas et la lampe qui rayonne illuminant ma route. » Comment tenir debout, frères et sœurs, comment tenir debout d'une manière fidèle alors que nous marchons dans un monde de ténèbres et de plus en plus enténébré? Comment allons-nous tenir debout si nous éteignons la lampe qui vient d'en haut? Il faut que la Bible et le Saint-Esprit nous conduisent dans le chemin de la lumière et de la victoire. Alléluia. Et ne jamais regretter ce que nous avons laissé pour plaire à Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a cet exemple du peuple d'Israël qui a été libéré par la puissance de Dieu de l'esclavage des Égyptiens, et notamment du roi Pharaon. Et après quelques jours de marche, alors qu'ils étaient, donc on va dire, en campagne pour gagner le pays promis, il s'est avéré qu'il y a eu des complications, il manquait d'eau, enfin, etc. Et quand on lit le texte, subitement, on tombe sur ce passage où il est dit qu'ils regrettèrent les concombres, les fruits, les légumes qu'ils avaient en Égypte, pas satisfaits. Pourtant, Dieu leur montre le chemin promis. Dieu va les conduire jusqu'au chemin promis. Dieu leur a déjà démontré sa puissance en ouvrant la mer Rouge en deux. Mais non, il manque de l'eau, il manque ceci, il manque cela. Un jour, ils en avaient assez. Assez de quoi, d'après vous? De la manne. La manne qui est le pain de vie, qui est la parole de Dieu pour nous, ils en ont eu assez. Alors Dieu a dit, ah, vous en avez assez. Eh bien, je vais vous envoyer des cailles. Et il a envoyé des cailles, un banc de cailles, un vol de cailles, mais tellement de cailles qu'au bout d'un certain temps, ils en ont eu marre des cailles. Elles pourrissaient sur place à la fin, les cailles. Et là, ils ont dit, Seigneur, ben on s'en remet à toi. N'allez pas chercher les fruits défendus du monde. Ne passez pas de compromis avec le monde, ni avec les pensées du monde. N'allez pas tolérer des choses qui se passent dans le monde qui sont contraires à la parole de Dieu, entre relations humaines. Et je ne rentre pas dans les détails. Car il est écrit que ces choses sont condamnables, mais que ceux qui les approuvent sont condamnables aussi. Sans y participer, seulement en disant quoi? Pff, si tu commences déjà, toi, chrétien, à dire pff, sur ce sujet-là, mais t'es perdu. Ou on respecte la Bible, ou on la respecte pas, ou on vit ce qu'elle nous enseigne, et on va vers le ciel, ou on sait qu'en prenant de telles positions, on sera pas compris. On sera incompris, ou plutôt, on va trouver de l'opposition, de la haine. Parce qu'on voudra maintenir bien haut la vérité, celle que Dieu nous a demandé de proclamer. Maintenant, je dirais, qui veux-tu choisir? Ou qui veux-tu servir? Est-ce que tu veux servir Dieu fidèlement, de tout ton cœur et de toute ta force? Ou est-ce que tu veux avoir un service tiède? Oui, mais alors, attendez. Quand je lis la Bible, excusez-moi, je lis la Bible. Je vais dans le livre de l'Apocalypse et je trouve que Dieu dit, à travers de l'apôtre Jean, l'écrit à l'Église, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Alors, sois bouillant, car c'est que les bouillants qui rentreront dans le ciel. Les fervents, les fidèles qui verront la gloire de Dieu, attache-toi à Dieu. Je dirais encore, vous permettez encore quelques minutes, la foi persévérante. Je dois être placé dans une situation de foi permanente. La foi veut dire fidélité. Une foi, fidélité. Pas la foi spontanée qui nous fait voir le miracle. Il y a la foi qui nous fait voir le miracle. La foi qui nous fait croire à la puissance de Dieu. Mais il y a à côté la foi persévérante. Celle qui sera inébranlable. Quelle que soit la situation, je peux être un chrétien qui ait la foi pour obtenir la guérison et Dieu me l'accordera en son temps parce que j'ai la foi dans ce domaine-là. Mais pour aller au ciel, j'ai besoin de la foi, fidélité. Le juste vivra et marchera par la foi. Alléluia. C'est-à-dire en mettant toute sa confiance dans la parole de Dieu, en étant lié et attaché à la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 12. Alors vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions, au contraire, que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, leur persévérance et leur attente patience, sont entrés en possession de l'héritage promis. Alléluia. Alléluia. Quel exemple! Je le relis, je relis juste la fin. Pour que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, donc foi, fidélité, puisque de suite après, il y a leur persévérance et leur attente patiente. Ils n'ont pas bronché dans la foi. Ils sont restés fidèles dans la foi. Dans la promesse, ils l'ont attendu. Et ils l'ont vu s'accomplir. Abraham a attendu, quoi ? Eh bien, de rentrer par espérance dans la patrie céleste et dans l'accomplissement du miracle. Pour rappeler ce texte. Espérant à la cité céleste. Dans 2 Timothée, il est écrit au chapitre 2, verset 11-12, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons, nous triompherons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera. Il nous reniera. Croyez-moi, ce matin, je ne dis pas des paroles dures, je dis des paroles bibliques. Et quand, entre guillemets, quand on aime quelqu'un, quand on aime une église, quand on aime ceux qui nous entourent, si on les voit se perdre, va-t-on les laisser se perdre? Ou par amour, n'allons pas leur dire « Attention, tu te perds, tu as pris la mauvaise route, tu as pris le mauvais chemin. » Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oh, peut-être nous ne nous sentons pas tous concernés. Mais peut-être quelqu'un avait besoin d'entendre ces choses ce matin. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas un bon nageur. Je nage. Et si je vois quelqu'un qui est en train de se noyer dans une rivière au bord de la mer, j'irai le chercher. Je ferai tout pour le sortir. Non ? C'est pas ce que vous feriez, vous ? Eh bien, si j'arrive, eh bien, j'aurai sauvé une âme. Comprenez ma pensée? Je suis un serviteur comme vous. Et le service que je fais est un service que je demande à Dieu qu'il trouve fidèle. Et quand quelqu'un est en danger, mon désir, c'est de l'aider à comprendre que s'il continue dans le mauvais chemin, dans l'erreur, il perdra son âme alors que Dieu veut sauver son âme. Mais on ne peut sauver son âme qu'à l'écoute de la parole de Dieu et en marchant fidèlement chaque jour. Je reviens à mon exemple là, ça va peut-être vous faire sourire et ne le faites surtout pas, en tout cas moi je ne l'ai pas fait, mais parce que jusqu'à maintenant j'ai eu personne à sauver. Si c'était au bord de l'eau, oui je le prenais, je le sortais comme ça, pas de problème. Mais un jour, je parlais avec un homme jeune qui était un petit peu dans les maîtres nageurs. Et je lui dis, mais comment on fait? Parce que des fois, c'est pas facile de tirer quelqu'un hein, qui est en train de se noyer. Il a tellement peur qu'il se bat de tous les côtés. Vous avez déjà vu ça? Moi, j'ai vu ça. Alors je lui ai dit, comment on fait? Parce que nous, on n'a pas la maîtrise, un ménageur, lui, il sait comment s'y prendre et tout ça. Il me regarde et il me dit, surtout, ne faites pas ça. Là, je vous dis à vous, ne faites pas ce qu'il m'a dit. Hein. Parce qu'il m'a dit, vous le prenez, et puis vous allez le caler, et puis, POUM, vous lui donnez un coup, vous mettez KO, et puis après, c'est plus facile pour le monter. Vous avez la bonne idée du ménageur? Ah, je ne peux pas le sortir. Ouais, mais je suis là pour le sauver. Boum! Non, je ne vous ai pas donné de coup de poing ce matin. Non. Mais le Seigneur est là. Et le Seigneur nous parle. Vous connaissez ce verset que Jésus nous cite? Matthieu 10, 22. Allez, j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Vous avez 5 minutes. Dites-moi, sans regarder la Bible. Ah, là, c'est bien. Hein. Parce que des fois, on dit, je connais la Bible. Oh, je vous dis, je la connais pas par cœur à fond. Hein. Attention. Mais alors, je vais vous le dire. Je vous donne les premiers mots. Est-ce que ça va vous donner quelque chose? Mais je vous le donne en parole vivante. Matthieu 10, 22. Vous pouvez le mettre là quand même. Voilà. Oui, parce que vous porterez mon nom. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Est-ce qu'on porte son nom? Il n'y a que ce côté. De ce côté-là, vous ne portez pas le nom de Jésus, vous. Hein? Vous portez le nom de Jésus, là? Amen. Et au milieu, ça? D'accord. Là, ils l'ont dit déjà, je ne vais pas les faire répéter. Lorsque vous porterez mon nom, tout le monde... Vous connaissez ce qui vient là? Tout le monde vous haïra. Ah oui, oui. Mais celui qui tiendra bon... Celui qui persévérera jusqu'au bout, qui sera donc fidèle jusqu'au bout, celui-là, dit Jésus, il sera... Je n'ai pas entendu. Et oh, si vous ne le connaissez pas par cœur, il faut le lire, hein, le souligner en rouge. Il sera sauvé. Oui, mais quoi? Si tu persévères fidèlement jusqu'au bout, tu auras la vie éternelle. La place que je te réserve dans le ciel. Amen. Alors, être fidèle, j'arrive à la conclusion. Fidèle, un bon serviteur fidèle doit avoir une vie conforme à ce que la parole de Dieu lui enseigne. Et quand le temps, ou quand tout temps, il doit être un témoin fidèle de son appartenance à Dieu. Et écoutez bien, vrai dans toute sa conduite. Dans toutes ces paroles. J'ai noté là encore quelques versets parce que qui nous rappellent en fait, et nous l'avons chanté tout à l'heure, ce que Dieu nous demande, et nous avons dit que c'était notre désir, c'était d'être semblable à lui. Et vous avez remarqué que le comportement du Seigneur Jésus a été un comportement exemplaire. Vous l'avez lu comme moi, il a vécu en tant qu'homme sur la terre sans commettre le péché. Ou non? Il était doux, il était humble, il était patient. Et pourtant, un jour, il a pris une colère. Et je vais vous poser une question. Je suis sûr que vous allez y répondre. Et pourquoi il a pris cette colère? Parce qu'on faisait dans... Il faut bien préciser. Parce qu'on faisait dans le temple qui était une maison de prière, de pour son père, il appelle... Une taverne de voleurs. C'est quand il est en train, Jésus, de réagir d'une manière colère sainte, parce qu'il y en a des fois qui, dans les discussions comme ça en aparté, en visite, il y en a qui connaissent un peu la Bible. Ouais, mais pourtant Jésus, il a pris une colère. Et moi, j'ai dit, elle était sainte, tandis que la vôtre, elle n'est pas sainte. Et quand vous vous mettez en colère, est-ce que. Non, pas vous, vous êtes tous des patients, je dis n'importe quoi. Mais... Donc, au cas où vous vous mettriez en colère, est-ce qu'elle est sainte, votre colère? Donc avant de te mettre en colère, tu tournes 7 fois la langue dans ta bouche avant de dire une parole. Et quand tu auras fini le 7e tour, tu n'auras plus rien à dire parce que tu seras fatigué, la langue. Mais Jésus, lui, il se révèle là. Et il nous le montre à nous aujourd'hui. Nos maisons de prière. C'est pas un lieu où on fait n'importe quoi. Oh. C'est un lieu saint. Et au culte, à mon sens, quand je viens au culte, c'est pas pour danser, c'est pour louer Dieu. Est-ce que des fois vous pensez à cela? Que penses-tu, Jésus, de certaines réunions que nous faisons dans l'Église? Ben, c'est vrai, il y a quelqu'un à la sortie qui va me dire, frère, il faut dépoussiérer la parole. Mais dans la parole, il est écrit, ne copiez pas le monde. Eh oui. Excusez-moi, hein, je sais que c'est la fête, c'est le 14 juillet. Oui, mais le 14 juillet, c'est quoi? C'est la libération, non? C'est là, on avait signé un truc. Là. Ben là, je vous apporte un message de libération. Fidèle, être semblable à Dieu. Fidèle dans le service pour Dieu. Fidèle dans le gain des âmes. Fidèle pour être des serviteurs humbles et efficaces. Alléluia. Et toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, quelques versets pour conclure. 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs ou à des serviteurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est écrit. Luc 12, 43. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous avez quand même remarqué, en introduction de notre texte, est-ce que vous avez quand même remarqué quelque chose d'important que je n'ai pas cité, mais je le cite maintenant. Le maître de la maison s'en va. Et qu'est-ce qu'il y a après? Vous voyez, je sens que je vais tout recommencer. Ça paraît anodin ce qui est écrit, mais il est dit « bien longtemps après ». Maintenant, faites la relation. Jésus est venu. Jésus est parti. Ça fait maintenant, je ne vais pas dire le chiffre parce que j'ai peur de dire une bêtise, mais ça fait plusieurs siècles qu'il est parti. Hein? Plusieurs siècles. Donc, il est parti. Comme au serviteur, il a dit à l'Église, maintenant je m'en vais. Il a dit à ses disciples, maintenant je m'en vais. Tout le monde l'a vu monter vers la gloire. On est d'accord. Et là, maintenant, Jésus attend. Quoi? Que son père lui dise, va chercher mon église. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et il n'est toujours pas là. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas revenu et que ça fait longtemps qu'il nous a fait la promesse de son retour, qu'aujourd'hui, parce que ça fait longtemps et qui sait s'il reviendra, mais il reviendra. Et il reviendra quand le Père lui dira. Lui-même ne sait pas quand il va revenir, mais il reviendra. Et vous savez ce qu'il dit, quand je reviendrai, est-ce que l'Église sera prête à être enlevée aujourd'hui? Est-ce que l'Église est prête au retour du Seigneur? Est-ce que toi, ami, est-ce que toi, frère, est-ce que toi, sœur, est-ce que toi, personne âgée, est-ce que toi, jeune, est-ce que moi, je suis prêt au retour du Christ? Car il n'y aura pas le temps de se repentir quand il reviendra. Ça se fera en un clin d'œil. Maintenant, mesurez le temps d'un clin d'œil. Un millième de seconde. Et si vous doutez de ce que je dis, placez-vous devant votre vitre en arrivant à midi, essayez de faire un clin d'œil, et essayez de le calculer, ce n'est pas possible. En un clin d'œil. Vous voyez, comme ça, là. Tac ! Et l'Église est partie. Est-ce que nous serons du nombre ? Est-ce que tu seras du nombre ? C'est maintenant qu'on prépare son départ. Plus que jamais, même. il revient en son temps. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai que tous comparaîtra, parce que c'est ça aussi que veut dire le premier texte. Tous ne comparaîtront devant le maître. Et à chacun, il demandera des comptes. Et à celui qui n'a pas le bon compte, jetez-le dans le temps de feu et de souffrance. Et pourtant, il est écrit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera en faisant ainsi quoi? En étant fidèle. Et dans le proverbe 28-20, il est dit, un homme fidèle sera comblé de bénédictions. Excusez-moi, là, je regarde pour savoir si ça vous fait mettre la joie au visage. Je répète, il sera comblé de bénédictions. Dans son vivant, hein, maintenant. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est pas... Non, si tu es fidèle, tu seras richement béni. Alléluia. Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas tenu pour innocent. Alors, je vais terminer, cette fois-ci, je vous le dis, je vais terminer par deux versets. Le premier, il me semble d'une importance capitale. Déjà, les autres, c'est pas mal. Mais est-ce que quelqu'un pourrait me dire ce que dit Proverbe 14:5? Sans tricher. Au cas où vous ne le sauriez pas, les tricheurs, ils ne rentreront pas au ciel non plus. Vous ne savez pas. Je trouve que c'est une perle. Et ne disons pas « je ne me sens pas concerné ». Parce que celui qui commence à dire « je ne me sens pas concerné », c'est qu'il a un problème d'orgueil. Mais il est dit là « un témoin fidèle ». Est-ce que vous savez ce qu'un témoin, me le résumer en un mot? Ou en deux? En trois? Attendez, je répète. Un témoin fidèle. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Exactement. Ne pas mentir. Il est écrit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Ouh. À souligner en rouge. Attention, mon frère. Calcule bien avant de dire, il n'y en a pas. T'avances pas trop. Voyez? Et écoutez, je ne vais pas vous faire l'affront de dire que celui qui n'a jamais menti lève sa main. On est bien d'accord alors? Ce qui veut dire que logiquement, avant de rencontrer Jésus, j'aurais dû préciser qui n'a jamais menti avant Jésus, et là, il y a eu des réactions. Ah, si, j'ai quand même... Allez, je termine quand même, parce que... Mais qui... Je dis bien, je vais terminer par ça, un petit exemple. Qui, ici, a appris à mentir? Qui vous a appris à mentir? Hein? Personne. C'est chez nous. C'est inné. Hein? Ce qui prouve que tout petit, déjà, on sait discerner le bien du mal. Hein? Qui n'a jamais dit, enfin peut-être pas de votre temps, mais qui n'a jamais dit au serviteur, à l'instituteur qui est en train d'écrire au tableau et vous êtes en train de blaguer avec votre copain là assis sur le même banc. Hein. Et puis d'un seul coup, il se tourne et vous savez ni pourquoi ni comment, mais il se tourne vers vous et dit « Toi là-bas, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et vous sentez que l'instituteur, si vous lui dites « Moi, je suis complètement... » Prime. C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Et l'autre, mais c'est pas moi. Hein. Vous n'avez jamais fait ça, hein. Vous êtes des saints, vous, c'est bien. Enfin, il y a peut-être d'autres mensonges, hein, un peu plus gros que celui-là. Hein. Mais depuis qu'on est chrétien, tous ceux que nous avons menti jusqu'au baptême ont été effacés et pardonnés. Mais maintenant, depuis que je suis chrétien, je ne mens plus. Je ne sais pas si je me trompe là, mais il n'y a pas eu trop d'amen. Hein. Ouais, mais celui-là, il va essayer de me roubler. Tu n'as pas besoin de t'en faire, confie-toi au Seigneur. Mais va te rouler dans la farine, ben change, va voir quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est dans les affaires. Mais on doit être vrai ou non. Vous savez, des fois, c'est vrai que le mensonge, mais là, j'ai pas le temps, c'est un autre sujet, ça. Mais si on regarde la parole de Dieu, il y a une femme qui a été sauvée par rapport à un mensonge de la part de Dieu. Si je vous dis que vous la retrouvez dans la généalogie de Jésus-Christ, Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a protégé les envoyés des espions d'Israélites. Non, non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils étaient déjà partis. C'est vrai que quelque part, mais c'est ça la grâce. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et je dirais en terminant, ça s'y prête un peu bien, mais je dirais en terminant, que si des hommes et des femmes n'avaient pas menti dans des circonstances que nous connaissons pendant la guerre, un certain nombre de Juifs auraient été sacrifiés. Donc il faut savoir être juste. Et mon Dieu est un Dieu juste. Mais me dit de ne pas se servir du mensonge pour tromper les autres ou pour te servir toi-même, mais pour servir lui. Dans ces deux exemples que je viens de citer, Dieu n'impute pas le péché. Voulez-vous être des serviteurs et des servantes fidèles? Le Seigneur a parlé, mais c'est à chacun de décider. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Qu'il vous donne la force de résister aux tentateurs et à la tentation. Qu'il vous donne d'être des lumières, comme lui-même a été lumière. Et qu'il vous donne de conduire d'autres âmes vers la vérité. Et qu'en tout temps et quelles que soient les circonstances, que vous soyez persécuté, haï, rejeté, même par les membres de la famille, parce que vous êtes enfants de Dieu, Dieu se chargera d'eux pour les convertir. Parce que devant votre exemple et devant vos prières, il répondra toujours. Seigneur, nous te disons.